France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Je ne vais plus au supermarché. Cette phrase choque. Il semblerait que vous soyez de plus en plus nombreux à la prononcer. Face à la hausse des prix, mais pas seulement, pour retrouver également le vrai goût des fruits et légumes, bio de préférence. De plus en plus de consommateurs, en effet, privilégient aujourd'hui la vente directe et ils évitent donc de passer par la case grande distribution. Alors comment interpréter ce phénomène? Nouvelle lubie de bobos citadins ou vrai mouvement de fond? Quelles sont également les origines idéologiques de cette volonté de trouver une alternative au supermarché? Beaucoup d'auditeurs de France Inter ont souvent attiré notre attention sur cette nouvelle façon de consommer engagé. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter deux auditeurs dans notre studio. Je les salue. Aujourd'hui, avec eux, nous allons essayer de comprendre si l'on peut faire des économies en évitant les grandes surfaces. Dans cette émission également, on vous expliquera très précisément pourquoi les fruits et légumes sont si chers dans les supermarchés. Et pour démarrer, vous allez entendre une saine colère. Ça fait du bien lundi matin.
Il y a le melon, il y a surtout la tomate grappe. Et cette année, qui n'est pas chère du tout, qui vaut 30 centimes, 40 centimes. Alors eux, qu'ils ont les moyens d'acheter, qu'ils achètent au moins, je ne sais pas, par semi, ça veut dire qu'ils vont le toucher beaucoup, beaucoup moins cher que ces prix-là de Rungis. Et ils se permettent de vendre ça au magasin à 1 euro et des poussières, et que le magasin doit vendre ça à 2,99€, 2,59€, un truc comme ça, c'est de la folie. De 40 centimes à passer à 3 euros pratiquement, c'est de la folie.
Et oui, la question est posée ce matin. Comment passe-t-on de 40 centimes la tomate, ou du moins le kilo de tomate, à plus de 3 ou 4 euros? On y répondra dans un instant. C'est un extrait de l'excellent reportage d'Antoine Lee que vous entendrez dans l'intégralité dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous rappeler, bien sûr, le numéro du standard, comme tous les jours, 01 45 24 7000. Vous pouvez poser vos questions et surtout réagir au sujet d'aujourd'hui. Comment fait-on quand on a choisi d'éviter les supermarchés? Peut-on faire des économies en évitant la grande distribution, que ce soit la cueillette, les AMAP, les commandes de fruits et légumes sur Internet? Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à vous fournir directement chez les producteurs. Par mail également, vous pouvez nous contacter sur le mail de franceinter.com, sur le site de Service Public. Et puis je voudrais surtout vous présenter mes invités ce matin. Je l'ai dit, deux auditeurs de France Inter ont fait le trajet, ils sont venus jusqu'à nous et je les en remercie infiniment. Bonjour Geneviève Schiltz.
Bonjour.
Alors vous habitez à La Rochelle.
Oui.
Vous écoutez, je crois, régulièrement l'émission. Vous avez décidé de nous envoyer un petit mail pour attirer notre attention sur vos activités. Vous êtes la présidente de l'association Unité Voisinale. En deux mots, à La Rochelle, racontez-nous ce que vous faites.
En deux mots, l'association est née en 1982 d'une rencontre entre des travailleurs sociaux, des habitants. Et nous avons réfléchi sur, ensemble, comment améliorer le cadre de vie, comment répondre le mieux possible, de façon collective, créer des réponses aux besoins des familles.
En un mot, si je voulais le résumer, c'est un réseau ou une coopérative?
En ce qui concerne l'économat de quartier, nous avons monté un économat de quartier. C'est un réseau, c'est un regroupement, un regroupement entre habitants et petits producteurs.
Est-ce qu'il y avait une volonté d'éviter les supermarchés ou est-ce qu'il y avait surtout la volonté de faire des économies? Vous parlez de famille.
Oui.
Est-ce qu'il y avait effectivement une manière de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat?
Il y avait cette volonté, mais il y avait aussi une nécessité dans la mesure où l'économat de quartier s'est créé dans un îlot d'habitat social, un îlot HLM, qui était éloigné de 2,5 km à peu près de l'épicerie, de la petite surface. Voilà.
Donc vous avez donc recréé une sorte de commerce de proximité,
une petite épicerie de quartier.
Voilà, alors vous allez dans un petit instant entrer dans le détail et nous raconter surtout comment cela fonctionne, en quoi cela vient en aide aux personnes et aux familles. Mais je voudrais d'abord présenter notre deuxième auditeur invité. Bonjour Laurent Pérez.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous nous avez envoyé un petit mail pour attirer notre attention. Nous sommes une famille, donc c'est vous avec un enfant. Nous sommes tous deux enseignants. Nous avons cessé d'aller en grande surface en 2003 suite à une conférence de Christian Jacquiot. Hein, Christian Jacquiot, on le connaît bien ici. Mmh. Il est l'auteur d'un ouvrage hein, sur la grande distribution qui dénonce la grande distribution. Vous définissez vous-même dans votre mail comme un militant altermondialiste. Nous ne voulons plus, par nos achats, cautionner les pratiques de la grande distribution. Et du coup, nous avons changé nos lieux et pratiques d'achat. Alors, où achetez-vous votre viande, votre pain, votre lait ?
Alors, nous avons donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Bien nommée AMAP, donc.
AMAP, hein. Je ne sais pas s'il est utile de rappeler le principe.
Il faut bien sûr le rappeler, bien sûr.
Des familles s'engagent à acheter la totalité de la récolte d'un producteur. En contrepartie, le producteur s'engage à fournir un panier par semaine à ses familles.
Alors, la particularité... On peut rappeler peut-être, dans votre cas personnel, à combien, à quel montant, à quel tarif est ce panier ?
Alors, c'est assez drôle parce que je ne me suis jamais posé la question.
Ah bon ?
Et je l'ai fait pour aujourd'hui, précisément. Le panier, alors ça dépend de la saison, évidemment, revient alors en été à 16 euros. Mmh. Et puis en hiver, c'est autour de 10-11 euros.
Et dans ce panier, que trouve-t-on ?
Ça dépend des saisons.
Ouais.
Donc en ce moment, nous avons des tomates, que des légumes. Nous avons des tomates, là, actuellement, nous avons des aubergines, des courgettes, des fruits, des légumes
de saison.
De quoi
nourrir une famille comme la vôtre, donc deux adultes, un enfant.
Voilà, le principe de la MAP, c'est de parvenir à nourrir une famille de quatre personnes pendant une semaine avec un panier.
Vous n'allez que dans cette AMAP ou vous faites quand même
principe,
la démarche parfois d'aller
la particularité de cette AMAP sur Draguignan, c'est qu'il y a plusieurs producteurs. Donc il est possible dans cette AMAP de passer des contrats avec un producteur de fruits, avec un producteur d'œufs, de volailles. Mmh. Nous allons installer prochainement un producteur de cochons qui va commencer dans deux semaines.
Mais est-ce que cela signifie que vous n'allez jamais dans un supermarché ? Par exemple, là, c'est la rentrée scolaire pour acheter des crayons de couleur, un cartable pour votre enfant.
Eh ben, j'ai fait quelque chose d'assez fou, je suis allé dans une papeterie, figurez-vous.
Voilà. Donc voilà, une vraie. Et pour vous, c'est une démarche idéologique ou est-ce que vous avez constaté que vous faisiez de sacrées économies ?
Ouais. C'est une démarche contre-idéologique parce que les hypermarchés ont déjà une idéologie qui est assez discutable, qui consiste à faire baisser les prix au maximum tout le temps. Et quand on baisse les prix au maximum, ben, on va taper dans les conditions de travail, on va taper sur les salaires. Il y a eu un documentaire sur Arte la semaine dernière, je pense, sur Walmart, qui démontrait assez bien comment la politique des bas prix avait influé sur déjà le volume d'importations en provenance de la Chine et des salaires aux États-Unis. Donc c'est pas dans le but de faire des économies au départ.
Mmh. Mais est-ce que tout de même, ça fait quand même maintenant plusieurs années que vous faites vos courses de cette façon, est-ce que vous avez constaté une différence ou pas ?
Si je prends le prix des produits stricto sensu, je ne pense pas que je fasse des économies sur les crayons, par exemple. Mmh. En revanche, si je vais dans une papeterie acheter des crayons, je n'achète que des crayons. Et donc, au final, ben, la facture en fin de mois, ben, elle s'en ressent parce que je n'achète que ce dont j'ai besoin, quoi.
Bien. Troisième invité, Yann Fievet, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président d'Action Consommation, Action Conso. Action Conso, c'est une association, bien sûr, dont le but, hein, c'est vous-même qui le dites, hein, c'est le sous-titre, hein, le but est d'agir par la consommation, agir pour consommer autrement. Et j'ai envie de vous définir aussi autrement. Là encore, je lis vos documents. Cette association s'est créée pour faire de la résistance à la mondialisation néolibérale. C'est le but d'Action Conso ?
Oui, c'est-à-dire que il y en a sûrement plusieurs, mais c'est vrai que, comme le dit Laurent Pérez il y a un instant, la question n'est pas seulement de faire des économies. On ne va plus au supermarché, par exemple, où on y va de moins en moins, pas seulement pour faire des économies, il y a bien d'autres raisons. Et l'autre grande raison, c'est qu'effectivement, on a affaire avec ce mode de distribution de la production, ce mode de distribution de produits, notamment dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, a effectivement un système très particulier, reposant sur la concentration du capital, reposant sur les gros volumes de vente, au détriment et sur les prix bas. Mais Christian Jacquiot, que vous avez cité, a bien montré dans son livre que si au début la grande distribution a fait sa gloire sur la question des prix bas, il est très discutable aujourd'hui. On a du mal à démontrer qu'effectivement c'est aussi avantageux qu'on pourrait le penser.
Mais pensez-vous que les Français soient nombreux à partager vos opinions ? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de citoyens français qui ont cette prise de conscience ? Pour la plupart des gens, on a bien l'impression que le seul but c'est d'acheter moins cher et d'essayer surtout de joindre les deux bouts.
Non, je crois qu'il faut remettre cette vision des choses en cause. Ça, c'est ce que l'on pouvait dire il y a quelques années. Quand on a créé Action Consommation, par exemple, il y a 5 ou 6 ans. Non, aujourd'hui... Alors, sont-ils nombreux aujourd'hui, les Français, à avoir les pratiques que nous avons, nous ? Non, pas encore. On ne peut pas dire qu'ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. On sent vraiment une montée de la demande pour des produits de qualité. Et le type d'expérience dont nous venons de parler, là, les AMAP, ce qui se fait dans un quartier un peu difficile à La Rochelle, l'économat de quartier, voilà une autre expérience. Il y a des tas d'expériences de ce type-là. Je dirais tout à l'heure peut-être quelques mots sur le réseau que nous avons développé en Ile-de-France.
On va rentrer dans le détail et puis on va surtout inviter nos auditeurs.
Il y a des tas d'expériences
aussi. Vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas à nous appeler et à nous dire comment vous faites-vous pour éviter également la grande surface, si c'est le choix que vous avez fait. Un mot aussi peut-être, Yann Fievet, sur vous, tout simplement, comment vous faites vos courses. Je vais vous poser la même question qu'à Laurent. Comment vous achetez vos fruits, vos légumes, vos boissons?
Je ne dirais pas que je ne vais plus du tout dans les grandes surfaces. J'ai un petit peu honte parce que Christian Jacquiot est un ami et lui aussi a su m'ouvrir les yeux sur tout ça.
Il ne faut quand même pas avoir honte d'aller au supermarché.
Lui,
non plus,
il va plus. Si, dans la mesure où pour certains produits je pourrais éviter, sauf que j'habite dans une zone où malheureusement les alternatives à la grande distribution ne sont pas très évidentes à trouver en banlieue nord de Paris, dans le Val d'Oise. Donc j'y vais encore un petit peu, mais de moins en moins. Et comment on achète nos fruits et légumes ? Eh bien, par un réseau qu'on a développé, j'en dis deux mots tout de suite, nous avons, il n'y a pas de contrat vraiment formel, mais on travaille avec des producteurs de Basse-Normandie, de la Manche et du Calvados, une quinzaine de producteurs qui se sont, eux, groupés en GIE.
Donc c'est toujours ce système d'achat direct, direct au producteur.
Circuit court, achat direct. Approvisionne en Ile-de-France 14 groupes de familles, dont un dans Paris, à Belleville. Les autres sont dans le pourtour, en banlieue. Il y en a deux dans le Val-d'Oise. Il y en a un à Champigny, qui s'est d'ailleurs depuis transformé en marché bio le samedi après-midi avec l'aide de la mairie.
Et ces achats donc directement aux producteurs se développent. On va d'ailleurs dans un petit instant grâce à Anthony.
Et ils nous approvisionnent en produits laitiers, en viande, en fruits et légumes, en cidre, évidemment. Nous sommes en Normandie.
Alors c'est vrai que ça se développe, je l'ai dit. On l'entendra également dans le reportage d'Anthony dans un petit instant, puisque à Paris, fin août, était organisée une grande initiative de vente directe aux Parisiens. C'était Place de la Bastille, on l'entendra dans un petit instant. Mais je voudrais vous faire écouter ce reportage qui nous a sidérés dans l'équipe de service public. C'est un témoignage anonyme, un responsable de rayon fruits et légumes d'une grande surface qui a donc préféré garder l'anonymat. Il a accepté de raconter, Antoine Lee, comment fonctionnent ces relations entre la grande distribution et les centrales d'achat. Si aujourd'hui, si ce matin, vous voulez vraiment comprendre pourquoi les fruits et légumes sont vendus si cher, eh bien écoutez ce témoignage.
Centrale d'achat, on travaille avec eux. C'est là où on se fait le plus taper, c'est à cause des centrales, parce que vraiment les prix qu'ils nous affichent, c'est incroyable, c'est de la folie. La tomate grappe que je paye 1,20€, 1,30€ et qu'Aringis ça vaut 40 centimes, là je trouve pas ça normal. Alors que la centrale, elle a touché beaucoup moins cher que 40 centimes. Parce que 40 centimes le prix Aringis, c'est pour un commerçant. La centrale, elle va acheter directement à un producteur. Elle va l'acheter à 20 centimes, à 25 centimes. Et eux, ils nous vendent ça à 1,20€, 1,30€ pour que nous, on le tape aussi parce que t'as le patron qui est derrière qui doit pas vendre ça à 1,50€ ou 1,60€. On va la vendre à 2,99€ ou à 3,20€. Il y a le melon, moi je parle surtout le melon là, c'est ça où ils se sont mis plein les poches, c'est le melon. Le melon qui vaut à Rungis, du français, du beau, pas cher, ça vaut, allez on va aller jusqu'à 50 centimes. Et encore, je suis gentil, je dis 50 centimes. Alors qu'eux, ils nous vendent ça à 1,20€, 1,40€, ils nous mettent du melon Charentais extra luxe, ils nous vendent ça à 2€ et quelques. Alors combien on doit le vendre nos clients? On est obligé de le vendre à 4€ des fois, 3,90€ le melon. Alors que vous allez à Rungis, il vaut 40, 50 centimes. C'est ça, c'est les clients, ils se plaignent. Mais ils se plaignent à qui? Ils se plaignent aux vendeurs ou aux jeunes employés qui est dans le magasin. Le patron, c'est pas le patron qui fait les rayons. C'est l'employé libre-service ou le chef de rayon qui met sa main de temps en temps. Mais le patron, il est dans son bureau, tranquille, il n'entend pas. Bon, nous, des fois, on remonte l'information, c'est cher. Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse le patron? Le patron, bon, il a un contrat avec telle centrale, il travaille avec eux, il a ses ristournes, il a son bac chiche derrière, et qu'est-ce que vous voulez? Il préfère, voilà, c'est tout. Ce qu'il va perdre comme client, peut-être qu'il va le récupérer comme ristourne. Tant que personne ne fera rien, ça va rester comme ça. C'est vrai que c'est le producteur qui mange un coup, parce que voir ce que ça lui coûte de sortir la marchandise, de sortir sa récolte et tout ça, Ce qui se bouffe, c'est les centrales qui gagnent de l'argent, pas possible. C'est les grosses surfaces qui gagnent de l'argent, pas possible. C'est un rayon qui gagne de l'argent, que même s'il y a de la perte, c'est minime, c'est vraiment minime. Parce que des fois, pas mal de fois, ils ont de la marchandise qui est gratuite. Il suffit que le camion soit en retard ou qu'il y ait un problème de qualité, que des fois, il n'existe même pas ce problème de qualité. Après, ils pressent le producteur, on va dire la Batavia. Et il dit que ouais, j'avais commandé de la Batavia qui pèse 600 grammes. Il suffit qu'il lui dise qu'elle pèse 550 grammes. Allez, nanani, il va lui fourguer 5 palettes gratuites. C'est ça, sinon on ne travaille plus avec toi. Le producteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé, le pauvre, de faire ça, de suivre leur politique. Sinon, l'année prochaine, il fait quoi? Sa salade, il va se la manger. Ça, il ne va jamais la vendre. C'est pour ça que les gens, ils pleurent. Voilà, le producteur, il pleure. Les clients, ils pleurent. Voilà, c'est qui s'en pif? C'est les grandes surfaces, c'est les centrales, c'est les gros.
Service public.
Prenez la parole.
Réagissez au 01 45 24 7000.
Un grand merci à Antoine Lee pour ce reportage, parce que tout est résumé dans cette colère que nous venons d'entendre. Je voudrais avoir la réaction de mes invités, Geneviève ou Laurent. Geneviève, allez-y.
Oui, je veux dire, c'est une parole de colère et c'est une parole que nous entendons, nous, au niveau de l'association.
Je veux dire, à La Rochelle.
À La Rochelle. Êtes, ouais. Les usagers de l'association, l'activité se déroule le mercredi matin. Si vous venez le mercredi matin, vous entendez cette parole.
Les fruits et légumes sont
chers. On n'y arrive pas. Les prix, on ne peut pas s'en sortir, ça augmente. Et nous n'avons pas les moyens de pouvoir nous nourrir sainement en produits frais, en fruits et légumes. C'est trop cher.
Laurent, votre réaction à vous? Je rappelle que vous habitez dans le Var, à Draguignan. Et je voudrais aussi vous faire réagir à ce gros titre de l'Humanité, c'est sorti il y a quelques semaines déjà, fruits et légumes, le grand racket. Certains n'hésitent pas à employer le mot racket pour dénoncer justement cette relation quand même qui existe entre les grandes surfaces et les centrales d'achat.
Bah, je crois que
consommateur au milieu qui a l'air un peu perdant.
Si on doit résumer l'action de la grande distribution, bah on peut parler de racket, mais pas seulement pour les fruits et légumes, c'est du racket généralisé. Le bilan de la grande distribution, c'est la distribution des commerces de proximité. Si vous voulez acheter un disque aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par une grande surface. Ça n'existe plus, un disquaire.
Sur Internet maintenant. Est-ce que c'est du racket ou pas?
S'il vous plaît. Depuis que nous parlons...
Vous n'utilisez pas Internet non plus?
Assez peu pour ça. Hein. Pour envoyer des mails à France Inter uniquement.
Oui.
Depuis que nous parlons, il y a une exploitation qui a fermé ses portes, puisque depuis 20 ans, il y a une exploitation agricole qui ferme toutes les 20 minutes. Ça, c'est le bilan de la grande distribution. Et ce qu'on fait en AMAP, ce n'est pas tant de proposer des prix les plus bas possibles, c'est d'essayer d'un petit peu réparer les dégâts de la grande distribution. C'est-à-dire éviter que les producteurs s'arrêtent de bosser. Parce que si on n'a plus de producteurs autour des grandes villes, les habitants ne vont plus pouvoir manger. Nous, on a 5 producteurs dans notre AMAP qui nous ont dit, sans les AMAP, on aurait déjà fermé les portes.
Et alors, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je vais vous lire un petit peu les témoignages qui nous arrivent. Liane nous dit, je ne mets jamais les pieds dans un supermarché, donc hein, comme vous, depuis plusieurs années. C'est pour moi un acte politique. Je gagne 1800 euros par mois. Je vis toute seule à Paris et j'y arrive. Je consomme beaucoup moins, mais mieux. J'achète directement à un producteur. Les linéaires monstrueux de supermarché me stressent. Également, tous ces emballages qui ne servent qu'une fois. Cet autre témoignage aussi qui nous arrive, Françoise nous dit « Je suis une consommatrice qui a déserté les supermarchés depuis longtemps. Trop cher pour la qualité souvent médiocre, surtout sur les produits frais. Ma question, pourquoi des prix exorbitants alors qu'ils achètent en masse et pourraient donc récupérer un prix moins fort ?» Et je vous lis un troisième et dernier témoignage avec une question qui est très très simple. C'est Emmanuel qui la pose dans les Côtes d'Armor. « Que se passera-t-il si les moitiés de la population française consomment de cette manière à grande échelle ?» Et la question, je vous la pose bien sûr à tous les trois. Si tout le monde se met à faire comme vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a au chômage?
Alors, moi, je Yann peux Fiévret. Ajouter quelque chose.
Répondez surtout à ma question.
Les fruits, j'y viens. Les fruits et légumes sont chers en grande surface, d'autant plus qu'ils sont de mauvaise qualité. Ce qui est important, c'est de comparer le prix et la qualité. On redécouvre avec les réseaux dont on a parlé il y a un instant la bonne qualité gustative des fruits et légumes. Ça, c'est très important. Comment on fait si tout le monde passe à ce type de pratique? Eh ben, ça veut dire qu'on va changer la forme de l'agriculture. On va remettre des paysans au travail et qui vont pouvoir vivre de leur métier. Avec la...
Mais concernant les salariés de la grande distribution, c'est vrai que ça, bah, ça la salariée de la grande sur la paille.
De toute façon, personne ne peut envisager que la grande distribution va fermer ses portes rapidement. Ça se fera progressivement de toute façon et ça ne se fera jamais probablement totalement.
Ils sont toutefois un peu inquiets. On l'a traité la semaine dernière. Il y a pour la première fois, enfin pour la première fois depuis de longues années, une baisse de la consommation. Les gens mettent moins de choses dans leurs chariots au supermarché, donc les gens consomment moins.
Bah parce
donc
qu'ils achètent
ailleurs. La grande distribution est un peu inquiète.
Oui, bah la grande distribution est inquiète. En même temps, on nous dit, les pouvoirs publics nous disent, ou le gouvernement nous dit, quand une entreprise ferme ses portes parce qu'elle ne résiste pas à la concurrence internationale ou elle y résiste mal, on dit c'est la loi du genre, l'économie, ça va, ça vient, il y a la mondialisation, on n'est pas compétitif, on ferme. Et alors là, quand il s'agit de la grande distribution, on ne peut pas envisager des transformations. Si on ferme certaines grandes surfaces, on réouvrira des commerces, il y aura un déplacement de main-d'œuvre. Que les patrons de la grande distribution soient inquiets, ça je le comprends, pour les profits.
Votre avis, Laurent,
par
et
contre,
Geneviève...
pour les salariés tels que les caissières, une caissière de supermarché, je ne suis pas sûr que ça lui déplairait de travailler dans un commerce de proximité, avec des rapports humains d'une bien meilleure qualité, avec la clientèle par exemple.
Est-ce que, Laurent, vous partagez cet avis? Est-ce que c'est si simple que cela?
Simple, je ne sais pas. Je ne sais pas si une transformation de cette ampleur va être aussi simple. La grande distribution a tellement envahi nos espaces de vie que forcément, ça va être pas forcément simple de passer à autre chose. Maintenant, c'est possible. Maintenant, sur les emplois de la grande distribution, il faut voir quels emplois. Pour un emploi créé dans la grande distribution, combien ils en ont détruit.
Et malheureusement, c'est vrai qu'on fait appel maintenant à des caisses automatiques.
Et en plus, bientôt, il n'y aura même plus de caissières, donc ça va être encore pire. Je voudrais quand même dire aussi que le prix de la grande distribution nous a fait croire qu'un produit alimentaire pouvait être à un prix très bas. Mais ça coûte des sous de faire pousser quelque chose. Nous, les producteurs qu'on voit, ils n'arrivent pas forcément à avoir un super salaire, alors que les prix de ce qu'ils nous proposent sont généralement un tout petit peu plus élevés. À un moment donné, ça coûte de produire de la nourriture et produire à prix toujours plus bas, ça finit par coûter finalement très cher.
01 45 24 7000, vous pouvez bien sûr intervenir, poser vos questions. Une auditrice par exemple nous demande comment fonctionnent exactement les AMAP, mais comment fait-on également quand on est tout seul? Est-ce qu'il existe des paniers pour les personnes seules? Et comment fait-on également quand on n'a pas de voiture? Eh bien écoutez cette auditrice Catherine, on lui répondra dans un tout petit instant.
Cette fille qui m'appelle, elle n'arrête pas à me rappeler, me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle fera un malheur, elle tuera mon bonheur, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Non, non, n'oublie pas ça. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Oh non, non, non. Tais-toi. Non, non, n'oublie pas ça. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Oh non, tais-toi. Oh non, non, non. Encore cette vie qui m'appelle, elle n'arrête pas à me rappeler, me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle fera un malheur, elle tuera mon bonheur, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi.
L'affaire Louis Trio, tout mais pas ça, un extrait d'un album de 1987, Chic Planet.
Consommer autrement.
Parce que le pouvoir est aussi dans le chariot.
Service public.
On reste ensemble sur franceinter.com.
Existe-t-il des alternatives au supermarché? Eh bien, sachez que sur ce thème aujourd'hui, choisi par Service Public en ce lundi matin, eh bien, sachez que vous êtes extrêmement réactif. Beaucoup, beaucoup de réactions, mais aussi beaucoup de questions des gens qui veulent savoir comment faire. Par exemple, un auditeur nous dit « J'habite du côté de Sucy-en-Brie. Est-ce qu'il y a une AMAP près de chez moi ?» C'est dans le 94. J'imagine, Yann Fevet, que vous ne connaissez peut-être pas la liste de toutes les AMAP de France par cœur, mais que peut-on dire à cet auditeur?
Non, ni en Ile-de-France, ni ailleurs d'ailleurs, puisqu'on a passé il y a quelques mois, je le donne quand même, parce que c'est important cette... Enfin, on a passé le cap des 1000 AMAP en France. Hein. Ouais. Il y a plus de 1000 AMAP. Il y en a plusieurs en Ile-de-France.
Il on se renseigne sur Internet, j'imagine.
À proximité de Sucy-en-Brie, il y en a. Il faut aller sur Internet. Il y a un site consacré aux AMAP dans Google, un moteur de recherche. On tape AMAP et on va avoir plein de renseignements.
Alors, j'en profite aussi, Yann Fievet, pour dire que vous organisez un festival dans quelques jours qui s'appelle Festi Soli, le site de mémoire, c'est ça?
Alors, ce n'est pas moi qui l'organise. C'est un ensemble d'associations, une trentaine. L'initiative vient d'une association qui s'appelle Focus 21. Et donc on organise Festi Soli, un festival des initiatives citoyennes, écologiques et solidaires. Tous les week-ends pendant 5 semaines, ça commence samedi prochain, manger autrement avec Jean-Marie Pelt
voilà,
et d'autres
consommer
gens.
Consommer autrement, enfin, habiter autrement, voilà. Il y a différents axes. Et je propose d'ailleurs aux auditeurs de regarder sur le site festisoli.fr, on mettra tous les renseignements.
Festisoli, IES à la fin.
Voilà, mais on met tout ça sur notre site.
Il y a plein de choses, c'est très intéressant.
Voilà. En un mot aussi, là peut-être je me tourne vers Laurent, auditeur, donc je le rappelle pour ceux qui prennent l'antenne, auditeur de Draguignan, qui est donc notre invité, puisque nous invitons régulièrement nos auditeurs à participer directement à l'émission. Laurent, cette personne, Catherine, que je citais tout à l'heure, qui veut savoir comment on fait quand on veut un panier dans une AMAP, mais qu'on vit seul. Alors, les paniers, c'est peut-être un peu trop gros, non? Il en existe des paniers pour personnes seules?
Chaque AMAP peut s'organiser comme elle le souhaite. Mm-hmm. C'est-à-dire que si une AMAP décide de faire des paniers pour personnes seules, elle le fait. On peut faire aussi des demi-paniers, se grouper avec une autre personne pour faire un panier à deux. Et la personne qui cherchait une AMAP à Sucy-en-Brie, soit il y en a une et tant mieux, soit il n'y en a pas, elle peut en créer une en cherchant un producteur et puis créer un groupe de famille.
Une initiative citoyenne. Question posée en direct, cette fois-ci aussi par Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous faites partie d'un réseau de consommateurs, c'est cela?
Voilà, c'est ça. Je dirais plutôt réseau de citoyens en fait que consommateurs directement. On va dire que la consommation, c'est plus... une façon d'agir,
oui.
Alors, directement un objectif.
Dites-nous justement, parce que vous voyez ce matin, on s'est dit qu'il y avait certainement plusieurs raisons à créer ces alternatives au supermarché. Est-ce que c'est une raison idéologique? Est-ce que c'est juste une question de coût? Vous voulez des prix bas ou est-ce que vous voulez des produits frais, des produits bio? Racontez-nous un petit peu vos raisons.
Bon alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un ras-de-bol, il faut le reconnaître, un petit peu par ce qu'on peut appeler le harcèlement des démarches commerciales. Un petit peu, on est perpétuellement envahi dans nos boîtes aux lettres, dans les mails, dans le téléphone, la publicité dans l'espace public, un petit peu partout. À chaque fois, on nous incite à consommer de plus en plus, avec les dérives qui sont derrière, de gaspillage, de pollution, de tentation dans les supermarchés. À chaque fois, on se sent un petit peu pris dans notre vie quotidienne, un petit peu par le monde marchand. Mmh. Et on en avait un petit peu assez, en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ce réseau de consommateurs? Vous vous réunissez pour discuter, échanger, ou est-ce que vous avez également, comme nos auditeurs Geneviève et Laurent qui sont avec nous, créé des systèmes, que ce soit un Economa, une AMAP, vous avez un système pour pouvoir acheter mieux, différemment?
Alors effectivement, donc, nous sommes organisés pour ça. Les AMAP, on a mis un petit peu de côté parce que chez nous, en fait, nous sommes dans l'Aveyron, donc on a facilement accès à des jardins et à titre individuel, donc des produits frais, on arrive à les produire.
Mmh, c'est bien, alors, ça, je vous envie, hein, parce que nous,
ouais, marchés, donc,
nous, à Paris, c'est plus dur. Hein.
Voilà, donc bon, nous, on a cette chance-là, donc c'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est tout ce qui est produits sanitaires, tout ce qui est produits qu'on peut stocker.
Ah, alors comment faites-vous?
Eh bien, dans ce cas-là, on s'organise. On prend d'abord, on est passé un petit peu par la centrale d'achat des Biocop. Mm-hmm. Un petit peu, on récupère la liste de produits et puis là-dessus, on sélectionne ce qui nous intéresse.
Et vous faites des achats groupés, j'imagine.
Voilà, et ensuite, on fait des achats groupés, 10-15 maximum, parce qu'au-delà, c'est trop compliqué à organiser.
Très bien.
Donc, au-delà de ça, après, on fait un autre groupe plus loin, dans la commune d'à côté, ou deux ou trois communes plus loin, ainsi de suite. Actuellement, on doit être à une douzaine de groupes, à peu près.
Mais est-ce que, excusez-moi de la question un peu spontanée, mais est-ce que ça ne vous complique pas trop la vie, dites-moi, Alexandre?
Ça nous complique la vie 2 heures à 3 heures tous les 2 mois.
Mmh. Ah bah oui, non, donc c'est pas si compliqué que ça, alors.
Voilà, et quand on fait le rapport au temps où on va au supermarché, je crois que le rapportant, complication est vite fait, quoi.
Merci beaucoup, hein. Votre témoignage est extrêmement intéressant. Merci Alexandre d'avoir réagi si vite. Donc un réseau d'échanges et puis également une volonté de trouver des initiatives très très concrètes, hein, que ce soit le système de l'achat groupé. On n'a pas beaucoup parlé de la cueillette aussi, mais je sais que beaucoup de gens le font aussi, la cueillette. Daniel nous appelle également, une auditrice va peut-être aussi nous faire partager son point de vue, ou du moins peut-être elle aussi un autre système pour éviter le supermarché. Bonjour Daniel, vous êtes avec nous?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, je voulais surtout féliciter Yann.
Oui.
Yann Fievé, puisque si vous voulez, c'est grâce
à lui. C'est un ami à vous?
C'est le hasard que j'ai entendu.
Oui.
Mais moi, je voulais le féliciter parce que je connais son action, mais en dehors de ça, je voulais dire que, si vous voulez, les supermarchés, pour l'ensemble des gens qui y vont, ce sont les premiers à demander aux agriculteurs de toujours produire plus, et c'est eux qui jettent le plus. Donc nous avons un moyen, moi j'utilise, si vous voulez, les moyens divers, les coopératives, les achats directs en ferme, sauf qu'en étant dans la région parisienne, qui est, on va dire, où là on pourrait vendre le plus, la question que je me pose, et que je voudrais quand même vraiment que les producteurs qui se groupent, c'est-à-dire qui se groupent parce que les filières d'abattoirs, les filières de production, un producteur ne peut pas être et produire et vendre et compter et tout. Il faut quand même, si vous voulez, à un moment donné, que les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, eh bien, essayent de se grouper pour que, par exemple, les abattoirs, c'est un gros problème. Donc, si un éleveur est là et qu'il doit emmener ses animaux très très loin, il a des problèmes. Donc, bien sûr, je suis 100% pour les AMAP. Je suis 100% également pour les produits, les AOC. Ce sont derrière également un moyen d'acheter des AOC. Là, derrière l'AOC, et de se renseigner qui produit derrière telle marque, afin d'éviter les marques de grande distribution qui étranglent les producteurs.
Merci, Daniel, d'avoir si intelligemment attiré notre attention sur le statut du producteur, qui bien sûr ne peut pas toujours être un vendeur, mais qui parfois s'improvise vendeur. Je voudrais faire une petite pause pour vous faire écouter le reportage d'Antoine Lee, réalisé Place de la Bastille. C'était fin août, le 21, très exactement, où, rappelez-vous, beaucoup de producteurs avaient décidé de se réunir pour vendre directement. On est là encore, hein, dans un autre exemple de vente directe, vendre directement aux consommateurs, une initiative que l'on doit au MODEF en partenariat avec le Parti communiste pour protester donc contre ces prix prohibitifs pratiqués sur les fruits et légumes par la grande distribution. Je les cite. Le but donc est de dénoncer ces abus des grandes surfaces. Résultat, un immense succès. Les Parisiens, et pas seulement d'ailleurs les Franciliens, se sont précipités pour acheter moins cher, là encore, des fruits et légumes place de la Bastille, lieu symbolique s'il en est. On écoute le reportage d'Antoine Lee.
Bonjour, vous avez l'air un peu perdu là.
Ah non, je suis fatiguée.
Vous avez un caddie là, il est rempli ou pas?
Non, il n'est pas rempli, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Il y a des tomates et des poires. Et c'est beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces, vous voyez. Donc, c'est plus coûtant.
Il faut mettre du beurre dans les épinards.
Ouais. Il faut déjà payer les épinards avant de pouvoir mettre du beurre. Hein. Vous avez de la chance, madame, vous avez trouvé des choses là.
Oui, parce que j'ai fait trois quarts d'heure de queue pour rien. Alors, je ne veux pas repartir sans rien, ça m'agace.
Vous avez trouvé quoi alors? Il y a des prunes.
Quelques prunes. Puis
une tomate, un peu
voilà,
fêlée.
Mais une tomate, voilà, et puis une poire. Alors, comme je n'ai pas fait une heure de transport pour rien, plus trois quarts d'heure de queue pour un rien, et ben, moi, je repars avec quelque chose gratis. Tant mieux pour moi.
Je vais vous présenter un paysan.
Ouais, Vélin.
Girardi, président du MODEF du Lot-et-Garonne.
Vous n'avez pas été prévoyant, il est à peine midi et il n'y a déjà plus rien.
Avoir monté 60 tonnes de fruits et légumes sur Paris avec 3 semi-remorques, c'est déjà un bel exploit. Mais enfin, ceci dit, le but, ce n'est pas de remplacer la grande distribution, c'est à un moment donné de ramener la grande distribution à plus de raisons. Parce que depuis 15 ans, il y a un producteur de fruits et légumes sur deux qui a disparu. Sur les producteurs.
À cause d'eux?
À cause d'eux, bien sûr, parce qu'ils sous-payent nos produits. Il faut savoir que 80% des fruits et légumes passent uniquement par la grande distribution. Deux mesures importantes sont à mettre en place. un calendrier d'importation par l'État pour contrôler les importations, puisqu'en fait, on est mis en concurrence déloyalement par des produits venant de tous les coins du monde. Ensuite, il y a une deuxième mesure, c'est le coefficient multiplicateur, qui est aussi une mesure importante qui existait, puisque ce coefficient a été supprimé en 1986. Ce coefficient multiplicateur permettait de contrôler les marges de la grande distribution, c'est-à-dire que le distributeur ou les épiciers ne pouvaient pas augmenter leur prix plus que coefficient 1,5 ou 1,7. Par exemple, si on achète un kilo, un distributeur achète un kilo de tomates 1 euro, ben il ne pourrait pas la vendre plus de 1,5 ou 1,7 €.
Alors concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? Par exemple, si le distributeur achète le kilo de tomates 1 euro, combien il peut le vendre aujourd'hui? À combien on le retrouve aujourd'hui dans les grandes surfaces?
Mais écoutez, le distributeur achète, quel que soit le prix qu'il achète le produit, il peut revendre le prix qu'il veut. Prenons par exemple un exemple. La tomate qui est payée actuellement 50 centimes d'euros aux agriculteurs du sud-ouest arrive à environ à 80 centimes sur Paris, rentre à la centrale d'achat à 80 centimes et revendue 2,5 euros à 3 euros par le distributeur. Ça, c'est ce qu'on appelle une marge prohibitive. Et je préciserai que si on est venu ici aujourd'hui, place de la Bastille, c'est pas par hasard. La place de la Bastille, pour tous les Français, c'est un symbole. Le racket que pratique la grande distribution contre les producteurs et les consommateurs, ça suffit.
Et sur les conseils d'Antoine Lee, je vous précise que la personne que nous venons d'entendre s'appelle Raymond Girardi, il est producteur de maïs dans le Lot-et-Garonne. Il est également le président du syndicat MONEF, le syndicat de paysans. Réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, Geneviève. Je rappelle que vous êtes donc à la tête d'un économat, pour que l'on comprenne bien. On va utiliser ce joli mot d'économat qu'on n'utilise pas beaucoup d'ailleurs. Du côté de La Rochelle, unité voisinale, c'est le nom de votre association. Vous voyez réagir à ce qu'on entend. Donc des Parisiens qui vont à la Bastille acheter moins cher. Moi, j'avais envie de revenir justement de votre côté, du côté de La Rochelle, où vous avez donc monté ce système de commerce de proximité. J'avais envie de savoir qui étaient les gens qui venaient acheter. Là, on a vu à la Bastille, il y a un peu tout le monde. Tout le monde est venu acheter moins cher.
Mais je veux dire, des opérations comme celle de la Bastille sont intéressantes parce que ça permet aux habitants du quartier de réagir. Mmh. Et tout à l'heure, lorsqu'on parlait des grandes surfaces, ils réagissent aussi sur les conditions de travail des caissières ou des gondolières, parce qu'ils appellent ça des gondolières. Je veux dire, donc, c'est peut-être moins l'hypermarché, la grande surface, où finalement, ils ont des outils de compréhension, mais c'est sur le quotidien, sur le mode de vie, sur le travail, parce que finalement, ce sont leurs voisines qui travaillent aussi dans les grandes surfaces. C'est leurs proches, c'est des membres de leur famille. Donc c'est au niveau du plus fin qu'ils ont une compréhension peut-être de la globalité d'un système.
Est-ce que je dois comprendre, Geneviève, en vous écoutant, qu'en fait, les gens sont non seulement bien sûr en demande de produits un peu moins chers, mais ils sont aussi en demande de lien social. Ils cherchent de l'humain.
Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, venir à l'économat de quartier n'est pas simplement venir pour acheter des produits frais à moindre coût, mais c'est aussi rencontrer la voisine, dialoguer, échanger, se donner des astuces. Lorsqu'on sait qu'il y a un emploi, on donne tout de suite l'adresse en disant « tiens, il y a du travail, là tu peux te rendre ». Donc je veux dire, il y a tout ce réseau au niveau d'un groupe.
Dites-nous comment vous faites pour acheter à bas prix.
Alors à bas prix, nous avons créé, un réseau avec des petits producteurs en 82. Nous sommes allés vers eux et nous leur avons expliqué que nous voulions monter un groupement d'achat, un économat. Donc ils nous ont fait confiance et 25 ans après, nous continuons toujours avec les premiers producteurs.
En vous écoutant, on voit bien qu'il existe une multitude d'alternatives au supermarché. C'est le sujet que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. Et je vois que au standard, les réactions sont extrêmement nombreuses, ce qui traduit bien un mouvement de fond. On a démarré l'émission en se demandant si tout cela n'était pas une certaine forme de lubie, une mode passagère. Pas du tout, mouvement de fond. Je vois également ce témoignage qui m'intéresse de Jeanne, qui nous écrit un petit mail d'Annecy. Elle a choisi d'acheter ses légumes, elle, chez un producteur. Et n'oubliez pas, nous dit-elle, que la vente directe est différente des AMAP. Nous sommes libres, dit-elle, de choisir nos produits, la quantité qui nous est nécessaire, la fréquence de nos achats. Nous n'avons pas à faire d'avance d'argent. Exactement. Il est vrai que pour les AMAP, il y a une petite mise de fonds quand même. Laurent, on peut le préciser. Mais il existe énormément de solutions alternatives. On va l'entendre encore avec un producteur et ça nous permettra de faire le lien avec une auditrice précédente qui nous parlait du problème des abattoirs, de la gestion de la viande, etc. Écoutons Jean-Yves Plessis, qui est producteur de porc, je crois. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous faites partie de l'îlot fermier. L'îlot fermier, c'est une, Une association, c'est un regroupement de producteurs. Comment fonctionnez-vous?
Oui,
vous êtes en Mayenne.
Oui, c'est en Mayenne, donc près de Laval. Mm-hmm. Et donc, on s'est associé, donc 8 producteurs du département de la Mayenne. On s'est associé et on a créé, en fait, ce qu'on peut appeler un point de vente collectif. C'est-à-dire que chacun des 8 producteurs va apporter sur ce magasin, sur ce site, en fait, chacun de ses produits.
C'est pas un vrai magasin non plus.
C'est une forme de magasin, donc dans lequel on a chaque producteur, j'allais dire, c'est plutôt, on peut ressembler ça si on veut à un marché couvert. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que chaque producteur reste propriétaire de son produit et il est vendu donc individuellement. Chacun vend son produit où on vend le produit de nos autres associés, en fait. Hein. Mmh. Hein, et à côté de ça, on a quand même une trentaine d'autres producteurs qui sont venus se greffer à notre groupe, qui amènent également leurs produits, donc de, je dirais, un peu complètement différents les uns des autres. Hein, ça va de la viande, en passant par les légumes, en passant par des fruits et en passant également par des produits laitiers. Quoi.
Alors, on n'arrête pas de dire depuis le début de cette émission que cette vente directe remporte beaucoup de succès. J'imagine que vous le constatez, que les consommateurs viennent directement s'approvisionner. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais est-ce que par ailleurs, vous rencontrez des difficultés? Quel type de difficultés rencontrez-vous? Par exemple, cette auditrice parlait du problème des abattoirs. C'est un problème pour vous ou pas?
Non, ce n'est pas spécialement un problème parce qu'en fait, chacun s'auto-gère lui-même. C'est-à-dire que nous, on va emmener directement nos animaux. Hein, c'est nous qui allons gérer en fait les abattages, les jours et les heures. Mmh. On va les rechercher ou faire transporter nos carcasses par des professionnels. Donc on gère en fait tout l'amont et l'aval de notre production. Hein. On choisit nous-mêmes nos animaux, on choisit nous-mêmes nos fruits ou toute notre fabrication, ouais. Et on choisit nous-mêmes la façon de les vendre.
Et dites-moi, vous pensez que ce système a un avenir? Est-ce que vous pensez que, par exemple, votre îlot fermier va être amené à se développer?
Oui, je pense parce que en fait, on était, nous, pour les 8 producteurs et les autres producteurs, en fait, chacun déjà dans la vente directe. On avait chacun notre structure de vente directe sur les 4 coins du département de la Mayenne. Et à partir de là, on a décidé de s'associer pour pouvoir, créer en fait une force un peu plus importante hein, pour arriver à gérer ce type de vente. Parce qu'à savoir que le producteur, mais le consommateur, lui, va rechercher en fait tous ces produits-là. Il venait déjà un petit peu sur les... Ouais. Faire le tour en fait de chacune des exploitations.
Et d'ailleurs, en un mot, vous pourriez nous dire ce que viennent chercher les gens qui vont acheter dans l'îlot fermier? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement?
Qu'est-ce qu'ils recherchent? Déjà, ce sont des produits de qualité. Hein, donc, en passant par la viande ou par les légumes, ce sont déjà des produits de qualité qu'ils recherchent à avoir. C'est-à-dire que ils vont pouvoir choisir leurs fruits, choisir leurs légumes, choisir leur viande. Et en sachant qu'ils recherchent que le produit soit en vente directe, c'est-à-dire vendu par le producteur, et avec un prix qui soit pas plus élevé qu'en fait qu'une grande surface. Hein. On ne va pas non plus dire que vendre nos produits inférieurs, à des prix inférieurs qu'une grande surface, parce qu'en fait, il faut aussi que chacun de nous gagne notre vie. Hein. C'est-à-dire que le problème avec la grande distribution, ce n'est pas leur problème de prix de vente, hein, c'est leur problème de prix d'achat auquel on va payer lorsqu'on vend en industriel. Quoi.
Merci beaucoup Jean-Yves Plessis. Je rappelle que votre association s'appelle L'Îlot Fermier. Vous êtes installé à Saint-Berthevin en Mayenne. Moi, je crois qu'avec toute l'équipe de service public, on va prendre une voiture, on va aller faire nos courses à Saint-Berthevin. Mais c'est un peu loin de la maison de la radio quand même. Hein. Je vais résumer peut-être les propos de certains de nos auditeurs par cette phrase qui nous arrive d'un auditeur qui nous dit « Je préfère donner mes sous à celui qui fait le boulot, l'agriculteur, plutôt qu'à celui qui ne fait que passer des coups de fil et qui gagne beaucoup d'argent. » Vous êtes très nombreux aussi à nous envoyer des messages et à nous téléphoner pour nous dire que finalement, en achetant bio ou en achetant dans tous ces petits systèmes que nous citons, que ce soit les réseaux de producteurs ou les AMAP, vous ne dépensez pas beaucoup plus d'argent qu'en supermarché. Et puis, puisqu'on est là pour parler aussi de solutions alternatives, Christine nous dit « Et pourquoi pas le troc ou l'échange entre voisins ? On devrait s'échanger des fruits et légumes. » Voilà une autre solution, hein, un peu extrême. Ça vous fait sourire, Laurent ?
Non, c'est pas
du tout. Ah bon, pardon.
Ce qui me faisait sourire, c'est finalement la multitude d'alternatives.
Oui.
Et on représente tous, chacun autour de cette table, une de ces alternatives, mais c'est presque finalement à chacun de se la construire dans ses possibilités. S'échanger des fruits et légumes, il faut d'abord savoir les cultiver. Mais voilà, et plus que consommer bio, parce que dans le bio, il y a aussi pas mal à prendre et à jeter, c'est surtout consommer local quoi, maintenant. Mmh. Voilà. Conserver un tissu de producteurs locaux, c'est à mon avis le plus important actuellement, parce que la grande distribution a fait énormément de ravages là-dessus.
Nous avons Isabelle, pardon. Geneviève, allez-y.
Non, je dis il faut savoir cultiver, mais je veux dire la municipalité de La Rochelle a augmenté le nombre de jardins familiaux au niveau de la ZUP. Et c'est important. Et il y a plaisir à aller travailler la terre, à voir ses légumes pousser. Et lorsqu'on a une belle récolte, eh bien, on peut l'offrir à ses voisins. Mmh. Donc, je veux dire, c'est un système global. On ne peut pas dire il y a l'économat, il y a les jardins, il y a la MAP. Je veux dire, il faut que finalement, on parle d'un ensemble, je veux dire, de solutions et d'alternatives.
Alors, peut-être un bémol à toutes ces solutions alternatives. Il nous est donné par une auditrice qui s'appelle Isabelle. Elle habite à Lunéville. Moi, je veux bien, nous dit-elle, aller faire mes courses chez le producteur, les primeurs, le primeur pour les légumes, le boucher, le poissonnier, le boulanger, l'épicerie, etc. Puis le papetier pour les crayons, comme vous l'avez dit, Laurent, au début de l'émission, etc., etc. Tout ça, c'est bien beau, mais si on regarde tout ce qui compose un caddie, il n'y a pas que l'alimentaire. Et si on fragmente tous ces achats, on passe son temps à faire ses courses. Qu'en est-il des femmes qui travaillent ? Ont-elles vraiment le temps ? Ça paraît comme un luxe, non ? Oui, pourquoi les femmes ? Elles font souvent les courses, quand même.
Bah, moi, je peux répondre.
Oui,
Yann Chévert. Avec tout ce qu'on a dit là, depuis le début de cette émission, il est clair que nous sommes dans une... C'est vrai que la question n'est pas idéologique, elle est plutôt philosophique. Je crois qu'on a affaire à une philosophie, une autre manière de vivre, une autre manière d'organiser son temps. Et la question des femmes qui travaillent, d'abord, il n'y a pas que les femmes qui travaillent, il y a aussi les hommes. Il n'y a pas que les femmes qui font la cuisine ou qui font les courses, c'est aussi les hommes. Donc, il faut que chacun passe en revue son emploi du temps de la semaine et regarde là où il fait des choses qui peut-être n'ont pas finalement un si grand intérêt que ça, et redécouvrir les joies de faire soi-même. On est le consommationnisme, je l'appelle comme ça, moi je ne parle même plus de société de consommation, je parle de consommationnisme. Ça nous a habitués à ce qu'on fasse les choses pour nous. Je crois que là il y a une reprise en main, une réappropriation par le consommateur de son espace, de son espace-temps, de sa vie. C'est une prise d'autonomie, une prise de responsabilité. Et dans ce que nous a dit Geneviève ou même Laurent ou dans d'autres expériences, c'est ça qui est très intéressant.
C'est ce que vous résumez bien en parlant de consommation engagée. Je suis désolée, Yann, je vois l'heure qui tourne.
Engagée, responsable, citoyenne, on l'appelle comme on veut, mais ça, c'est très important.
Je voudrais qu'on prenne une dernière auditrice. Malheureusement, l'heure passe très vite. Nous avons Françoise qui est à Bordeaux, qui patiente depuis quelques minutes et je l'en remercie. Françoise, vous vouliez prendre la parole. Vous serez notre mot de la fin, d'une certaine manière. Françoise ?
Oui, je vous écoute. Merci, oui. Écoutez, merci pour votre émission qui, depuis la semaine dernière, choisit des interlocuteurs qui ont le courage de ne pas nier la réalité de la hausse des prix, et essentiellement aujourd'hui sur les questions des fruits et légumes. L'année dernière, ce n'était pas le cas, je peux vous dire. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire à propos de tout ce qui a été exprimé ce matin sur les producteurs, la vente directe, etc., j'aurais déjà peut-être une petite question, même si je ne sais pas si je pourrais avoir la réponse, par rapport à M. Girardi qui a parlé là, de son opération coup de poing, si on peut dire, à la Bastille. Moi, j'aurais aimé savoir combien il vendait les tomates. Puisqu'on a dit notamment que...
Je n'ai pas le prix exact, mais visiblement, c'était vraiment pas cher.
Voilà. Alors, moi, si vous voulez, c'est vrai que la question du choix entre le producteur et les grandes surfaces, maintenant, ça devient absolument vital. Pour question prix et question qualité. Quand on voit dans les grandes surfaces des nectarines semblables à des boules de pétanque qui valent entre 3 et 4 euros, c'est plus possible. Hein, voilà. Alors, par contre...
Donc, pour aller vite, en fait, François, si je résume votre pensée, vous trouvez quand même que tout est cher, même quand c'est vendu en dehors des supermarchés ?
Alors,
c'est
voilà,
ça, votre pensée ?
Moi, j'ai fait l'expérience cet été en me trouvant sur des marchés régionaux, des marchés fort sympathiques comme tout au long de la côte atlantique durant l'été. Moi, malheureusement, j'étais confrontée à une réalité où j'ai voulu acheter un melon qui venait, soi-disant, directement du producteur et où je l'ai trouvé au même prix à la supérette du coin. Alors j'ai quand même été un petit peu surprise. Alors partant de cet exemple-là, j'ai vu la même chose avec des prunes. Moi je voudrais faire deux remarques en direction des producteurs. Faire attention justement au prix. Il n'est pas question que le consommateur prétendent acheter aux producteurs au même prix que les grossistes, etc. Mais attention, si on va chez le producteur pour payer quasiment le même prix qu'à la supérette du coin, c'est pas très bien.
François, je suis désolée, je vais être obligée de vous laisser, mais bon, c'est peut-être un cas particulier. Merci en tout cas
Par rapport aux AMAP, j'ai une toute petite remarque également. J'avais deux remarques. La question sur...
Alors très vite, parce que nous arrivons au terme de l'émission.
Aussi, je dirais, est-ce que les AMAP n'arrivent pas à être un peu victimes de leur succès? Et on peut le voir voir aussi parfois par rapport au contenu du panier.
Oui, oui, font mes invités. Merci Françoise. Hein. Je vous sens très, en tout cas très motivée, très engagée sur ce sujet. Rapidement, Laurent, et je profite aussi un petit peu de ce que vient de dire Françoise, AMAP victime de leur succès. Je ne vous cache pas que j'ai quand même beaucoup de messages de gens qui nous disent « mais nous, on ne peut pas aller dans des AMAP, on n'a pas de voiture, etc. » Est-ce que voilà, ça reste quand même un système que l'on peut critiquer. Réponse de Laurent, et puis je vois que Geneviève aussi veut intervenir pour conclure.
Très vite. Alors, les AMAP victimes de leur succès, c'est pas tant dans la composition du panier, puisque finalement tout ça est à organiser avec le producteur, ce qu'il y a dans le panier. La MAP, c'est pas quelque chose qu'on a clé en main, c'est quelque chose qu'on organise soi-même. De la même façon, on peut décider d'avoir une AMAP de centre-ville. À Draguignan, il y a deux AMAP. Une AMAP où il faut une voiture pour y aller, celle dans laquelle je suis, et une AMAP de centre-ville où on peut aller à pied. Voilà. Moi, je dirais qu'elles sont victimes de leur succès dans le sens où de plus en plus de gens viennent en tant que consommateurs et viennent là avec une démarche, la même démarche que celle qu'ils ont pour aller en grande surface. Et là, généralement, ça se passe assez mal.
Geneviève, je vois que vous vouliez intervenir aussi.
Oui, je veux dire que finalement, tout est dans le fonctionnement, dans le mode, dans l'invention. Il faut être créatif, il faut voir les personnes qui ont envie de se servir auprès soit d'une AMAP, soit d'un regroupement, soit d'une association ou une unité comme la nôtre. Je veux dire. Et il faut que finalement, le groupe qui soit l'initiative de la démarche invente. Mmh. Il faut être inventif.
Vive les initiatives. Merci beaucoup pour cette...
Je dirais moi...
En un mot, allez-y.
Il faut que le consommateur soit conscient désormais que le pouvoir d'achat est un pouvoir d'action. Et je crois qu'on
l'a montré dans cette émission. Merci beaucoup Yann Fievet. Je rappelle que vous exprimez au nom d'Action Conso. On peut aussi rejeter un coup d'œil sur votre association. Et puis merci infiniment à ces deux auditeurs. Je l'ai dit et je vais le redire. Deux auditeurs que nous avons choisi d'inviter. Ils ont la parole donc sur France Inter. Geneviève Schiltz pour l'association Unité Voisinale à La Rochelle. Et Laurent Pérez qui habite à Draguignan. Merci à vous. Un petit mot encore pour vous dire que sur le site de service public sur franceinter.com, nous avons lancé un sondage depuis quelques jours. Allez-y, votez sur la question suivante. Le débat actuel autour du pouvoir d'achat, vous pousse-t-il à moins consommer? Oui, non, pas du tout, etc. Tout est sur le site. Merci à vous tous.